Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 26 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le Brief de l'écho.
La Wallonie est-elle réellement plus passive dans sa gestion des chômeurs que la Flandre ? L'écho s'est procuré les chiffres de 2023 sur le nombre d'avertissements et de sanctions adressées à des chômeurs par région. On fait le point dans ce brief. C'est désormais officiel, Van Hall déposera le bilan à la fin du mois de mars. La reprise totale ou partielle des activités est à l'étude pour éviter un véritable bain de sang social. Les banques belges et européennes investissent massivement dans la déforestation et pourtant la législation européenne contre la déforestation ne prend pas en compte les flux financiers. Je suis Ondine Moeres et vous écoutez le Brief.
Le Brief, cette info dès 7h.
La Flandre est-elle vraiment plus sévère que la Wallonie avec les chômeurs ? Eh bien, la réponse est non. De quoi démonter les clichés qui dépeignent un forum laxiste à l'inverse du très efficace VDAB flamand. L'écho a pu voir les chiffres de l'année passée qui montrent le nombre d'avertissements et de sanctions adressés à des chômeurs par région. Et en décortiquant ces chiffres, il ressort deux gestions très différentes des contrôles et des sanctions. La première concerne les jeunes qui sont inscrits au Forum et au VDAB après la fin de leurs études. Pour eux, la Wallonie a réalisé près de 14 000 évaluations négatives contre moins de 3 000 en Flandre. Au nord du pays, l'accent est mis sur les demandeurs d'emploi qui bénéficient déjà des allocations de chômage et qui courent donc le risque de les perdre. Les autorités flamandes leur auraient envoyé pas moins de 21 000 avertissements et sanctions l'année passée, contre à peine un peu plus de 3 000 en Wallonie. Enfin, ça c'est ce que déclare le VDAB, qui pourrait bien avoir gonflé ces chiffres. Bonjour Corentin Diprima.
Bonjour Odine.
Alors vous êtes spécialisé dans les questions de l'emploi et vous avez décortiqué ces données pour l'écho. Alors en quoi est-ce que ces 21 000 avertissements du côté flamand posent question ?
Le VDAB a eu le choix d'envoyer 8 800 pré-avertissements. Pré-avertissements qui en fait n'ont aucune existence dans la réglementation fédérale qui organise les contrôles et les sanctions des chômeurs. Et donc certains disent que la Flandre de cette façon gonfle ses statistiques de contrôle des chômeurs et de sanctions des chômeurs, puisqu'on sait qu'en Flandre il y a une forte pression politique notamment en ce sens.
Mais donc Corentin, concrètement, est-ce qu'il est faux de dire que la Flandre est plus sévère que la Wallonie envers ses chômeurs ?
Certes, en chiffre absolu, c'est vrai que le VDAB contrôle et sanctionne davantage. Mais d'une part, donc, il y a ces 8000 préavertissements dont on ne sait pas très bien à quoi ils correspondent. Et par ailleurs, le Forum, lui, a mis l'accent sur les jeunes en stage d'insertion, donc des jeunes qui ne reçoivent pas encore d'allocation, mais qui, en cas de sanction ou d'avertissement, voient la perspective d'obtenir des allocations de chômage s'éloigner. Là, le Forum, clairement, est largement plus sévère que le VDAB parce qu'en fait, c'est une priorité politique mise par le gouvernement wallon qui demande au Forum d'être très, très activateur vis-à-vis des jeunes pour éviter qu'ils tombent dans du chômage de longue durée dont on sait que c'est un des problèmes historiques de la Wallonie. En Flandre, la situation politique et la situation aussi de l'emploi est forcément différente et donc la priorité politique ne se met pas au même endroit. D'où, voilà, parfois cette confusion dans les chiffres qui peut déteindre sur le débat politique et sur sa qualité sur ces questions-là.
Merci Corentin. Van Hall déposera le bilan en fin de mois. C'est ce qu'annonçait ce lundi le porte-parole de l'entreprise en conférence de presse. Écoutez.
Malgré le délai fixé ce lundi midi, il n'y a eu aucune confirmation que le litige successoral ait été résolu. La question de savoir si les banques étaient ou non disposées à engager leurs propres capitaux n'a donc que peu d'importance. Avec ces dernières évolutions, nous devons malheureusement conclure que la mise en œuvre du plan de relance Van Hall n'est plus possible.
La famille n'est pas parvenue à trouver de solution à son conflit, entraînant le constructeur belge de bus vers la voie de la faillite. Un dépôt de bilan aura lieu en fin de mois pour les activités de la société liéroise. Le gros avantage de la faillite, c'est que la dette de 400 millions d'euros de Van Hall disparaîtra. tout comme les différentes pénalités de rupture de contrat. Elle pourrait se chiffrer en dizaines de millions d'euros. Les discussions continuent donc avec d'éventuels repreneurs pour un redémarrage de l'activité, mais le temps presse. La date limite pour trouver une solution, c'est ce dimanche. Les banques investissent massivement dans la déforestation. Voilà le constat sans appel d'une analyse menée pour le compte de trois ONG environnementales, dont Greenpeace. Les banques actives en Belgique ont à elles seules investi 8,8 milliards d'euros dans les secteurs à risque pour la déforestation depuis 2015. Mais voilà, à partir du 30 décembre de cette année, l'importation dans l'Union européenne de produits qui contribuent à la déforestation devrait être interdite. Mais à ce stade, les banques ne sont pas directement concernées par ce nouveau règlement européen. Pourtant, depuis l'accord de Paris sur le climat, le secteur financier européen a fourni plus de 22% de crédits alloués aux grandes sociétés actives dans les secteurs à risque pour les écosystèmes. Mais le répit pour les banques pourrait bien être de courte durée. Une évaluation et une révision du texte est prévue dès 2025. Les associations s'appuient donc sur ces nouvelles données pour appeler l'Union européenne à inclure les flux financiers dans sa législation. À elles seules, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING Group et KBC, donc quatre des principales banques actives en Belgique, sont responsables de plus de 100 milliards d'euros de crédits à risque. Il y a du changement chez Exki. Le fondateur et actuel CEO Frédéric Rouvet cède la direction du groupe, un groupe qu'il a cofondé en 2000 avec deux anciens collègues, Nicolas Steisel et Arnaud Demeus. Exki revient d'une période difficile. Le Covid avait mis l'entreprise à genoux et l'avait forcé en 2022 à fermer des restaurants et à renflouer les caisses à hauteur de 22 millions d'euros. Aujourd'hui, le groupe a de nouvelles ambitions et c'est un ancien franchisé d'Exki du nom de Stan Monheim qui prend les rênes désormais. Mais alors pourquoi cette transition? Nous avons posé la question au fondateur Frédéric Rouvet.
Mais avant toute chose, une entreprise doit survivre à son ou ses fondateurs. Et effectivement, dans ce cas-ci, le fait de me retirer et de laisser la place à Stan Monheim donne l'occasion à Exki de continuer cette trajectoire qu'on a commencée il y a maintenant 24 ans. C'est aussi l'occasion de passer la main à quelqu'un d'expérimenté. On a rarement la chance d'avoir l'opportunité d'engager quelqu'un de ce niveau-là. Et quand elle passe, cette chance-là, on la saisit. Et Stan est effectivement la personne dont on ne pouvait pas mieux rêver que lui comme successeur, pour ma part.
Certes, il est peu connu du grand public, mais Stan Monheim n'est pas étranger au groupe, puisqu'il avait notamment aidé Exki à s'installer à Bruxelles Airport. Et en plus, il peut se vanter d'une grande expérience dans l'Horeca, qu'il a forgée notamment au sein du groupe italien Autogrill, rebaptisé depuis Avolta. Une expérience internationale donc, qui devrait avoir des effets directs sur Exki.
C'est cette capacité à mener de front plusieurs pays avec plusieurs concepts qui l'a mené chez nous. Son rôle sera donc vraiment de poursuivre l'expansion internationale d'Exki et d'approfondir certains marchés spécifiques qui ont vraiment bien besoin d'une enseigne comme la nôtre, avec une mission claire en développement durable et en défendant la nourriture de qualité. Ce mois-ci, par exemple, nous ouvrons 5 nouveaux restaurants. On ouvre aussi 4 proxy Exki, pour les appeler comme ça. Donc, il y a du taf.
L'Union européenne a une nouvelle arme pour s'attaquer aux géants du numérique, le Digital Market Act. Ce règlement sur le numérique voté en 2022 est entré en vigueur au début du mois et l'exécutif européen n'hésite visiblement pas à l'utiliser. Concrètement, c'est Apple, Meta et Alphabet, la maison mère de Google, qui sont sous le feu d'une procédure d'infraction pour violation présumée aux règles de la concurrence. Après des années à courir en vain derrière leurs abus de position dominante, l'exécutif européen espère que sa nouvelle législation fera plier les géants du numérique. Elle prévoit notamment des amendes jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires mondial, contre 10% jusqu'à présent. Le spécialiste de la charcuterie What's Cooking envisage de se séparer de son activité charcuterie. C'est un scénario qui a émergé après une revue stratégique de ses activités, mais c'est surtout une annonce qui a surpris les marchés. Ce n'était qu'une communication de quelques lignes, très prudente, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les investisseurs se montrent très enthousiastes. Si l'opération réussit, l'action devrait grimper d'après les analystes, et en fait elle ouvrait déjà en hausse de 9% hier, avant de s'envoler dans la journée pour clôturer à près de 15%. La suite, c'est Luc Vendrich qui nous la raconte.
Alors, il faut savoir que la charcuterie, donc, est l'activité historique de l'ex-Turbeek rebaptisé What's Cooking depuis l'an dernier. Le problème, c'est que l'activité de charcuterie n'est pas suffisamment rentable par rapport à l'autre pôle d'activité qui est celui des plats préparés. Une mise en vente éventuelle, effectivement, enthousiasme les marchés. Elle répondrait en fait à un objectif majeur, c'est recréer de la valeur pour l'actionnaire en se focalisant sur l'activité la plus rentable, donc les plats préparés. Si la division charcuterie pèse plus de la moitié du chiffre d'affaires de What's Cooking, elle ne rapporte par contre qu'un bénéfice opérationnel minimum, puisqu'on parle de 300 000 euros de bénéfice opérationnel, alors que l'activité plat préparé en rapporte près de 20 millions. Donc pour les dirigeants de l'entreprise, une relance passe donc par une accélération de la production, notamment de plats végétariens.
Et oui, puisqu'on sait que la tendance est à la réduction de la consommation de viande ces dernières années, ça paraît donc assez logique. Connaissez-vous la maladie de Crohn ? Biocuris, qui est une entreprise positionnée dans le domaine de la nutrition médicale pour les soins de santé gastro-intestinaux, lance une étude pour évaluer un nouveau produit potentiellement actif sur certains symptômes de cette maladie intestinale. La spin-off de la biotech liégeoise Kitozym a développé un complément alimentaire à usage médical baptisé BK003 et il pourrait bien améliorer la qualité de vie de certains patients atteints de cette maladie pendant leur rémission. La moitié des malades ressentent des symptômes de type syndrome du côlon irritable pour lesquels les traitements actuels ne sont pas efficaces. François Blondel est le CEO de Biocuris et de Kitozym. Son nouveau produit doit aujourd'hui passer les tests d'un essai clinique.
L'ambition, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients. Et l'objectif est de proposer là une solution dès 2025. Donc, il s'agit ici d'une phase qui vient valider l'efficacité du traitement sur les patients.
Et on parle de combien de malades qui sont concernés ici ?
On estime aujourd'hui que la maladie de Crohn atteint un peu plus de 2 millions de personnes à travers l'Europe. Donc, ce sont des chiffres très considérables. Alors, une partie de ces patients sont en rémission, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les poussées aiguës de la maladie. Mais lors de la rémission, elles peuvent tout de même avoir des effets secondaires très indésirables, très désagréables dans leur vie. Et l'objectif, c'est précisément de leur offrir une solution.
Pour les habitants et les travailleurs de Bruxelles, prenez vos précautions ce mardi. Une nouvelle mobilisation des agriculteurs est prévue dans la capitale, en marge du Conseil européen des ministres de l'Agriculture et de la Pêche. Et voilà, c'est déjà la fin de ce brief. Je vous retrouve dès demain pour un nouveau condensé de l'actu éco du jour. Merci à Julie Garrigue d'avoir préparé cet épisode. Très bonne journée à toutes et à tous. Salut!
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.